C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, c'est le sujet de conversation, bien sûr. Carey Price qui prend une pause pour une durée indéterminée. Programme d'aide de la Ligue nationale parce qu'il veut se refaire une santé mentale. Nathalie.
Ben, je te dirais, Paul, il y a eu le choc de la nouvelle et la noblesse du geste qui a été posé. Tout d'abord, par rapport au choc de la nouvelle, il n'y a personne qui s'attendait à ce départ de Carey Price. Même dans l'angle mort du Canadien, là, personne ne l'avait vu venir. Marc Bergevin, hier, disait « je l'ai appris hier ». Et ça a sonné tout le monde. Ça a pris tout le monde, oui, par surprise. Et puis, c'est intéressant parce que, en fait, ajouter au choc de la nouvelle le fait que Carey Price n'est pas un quidam, loin de là. C'est un super-héros. C'est bien présenté comme ça, perçu comme ça par plusieurs fans du Canadien. L'autre élément qui m'a frappé, c'est la noblesse du geste posé. Parce que après qu'on ait pris connaissance de cette nouvelle qui nous a pris par surprise, il y a la noblesse du geste. La noblesse du geste, c'est très intéressant parce que à peu près tout le monde est unanime là-dessus au Québec pour dire c'est pas parce que le gars gagne 10,5 millions de dollars qu'il est qu'il peut pas avoir de problème ou de défis à surmonter sur le plan de la gestion de son stress ou la gestion de sa santé mentale. Et je trouve que ça fait tomber un tabou sur les athlètes professionnels. En fait, l'image de super puissance à laquelle on s'attend de nos athlètes professionnels. Alors, moi, je trouve en bout de ligne à la fin de l'exercice, là, je pense que ce qu'il faut retenir, parce que moi, ce que je retiens, c'est l'aspect très humain derrière le geste qu'a posé Carey Price.
Luc. Bon, moi, j'ai noté quelques citations dans la presse et les médias sur cet événement-là. Une véritable onde de choc, une énorme surprise. Bergevin, incapable de parler, étranglé par l'émotion. Carey Price, un demi-dieu, le meilleur gardien au monde. On va se serrer les coudes et on va s'en sortir. Ben, coudonc, moi, je propose qu'on y aille toute la gang au programme d'aide du Canadien. Parce que le choc sacré, c'est pas normal, là. Je veux dire, quand même, le gars, hein, il est bon, il est fort, il est grand, là, mais on peut, c'est beaucoup. Moi, je vous le dis tout de suite, là, je propose que Céline Dion fasse très attention à sa santé. Parce que si elle meurt, on s'en sortira pas. On s'en sortira pas. On va être pendant 3 semaines à en parler. Je prends des vacances. Céline Dion, quelqu'un s'occupe de sa santé, vitamines, protéines. Fais attention à toi, Céline. Mais là, l'autre affaire que je veux dire...
Non, mais attends une minute, là, toi, ça t'a pas... Mais c'était quand même un choc, Luc, là. Pour... Personne n'avait
Oui, mais il faut dimensionner le choc, tu sais. Le gars, OK, blessure au haut du corps, mais c'est en haut du cou, là, ce gars-là. Mais, OK, c'est normal, burn-out. Regarde, d'ailleurs, Nathalie, c'est un burn-out. Là, le monde, il a dit, c'est-tu parce que...
On sait pas, fait...
Oui, non, c'est ça. Moi, j'ai analysé les larmes de Bergevin, puis le message, j'ai regardé les virgules dans le message de sa femme là, sur Twitter, puis ça, je suis arrivé à la conclusion que c'est un burn-out. Mais ça devrait être un burn-out. C'est normal que ce soit un burn-out. Puis là, c'est quand tu dis, on en parle. Pourquoi on en parle?
C'est juste le Canadien de Montréal, c'est Carey Price.
Non, c'est parce que c'est nouveau, cette histoire-là, de faire attention à la santé mentale et à notre santé mentale aussi, pas juste à la sienne.
C'est assez nouveau chez les athlètes.
Exactement.
C'est nouveau chez les athlètes, mais c'est précurseur de quelque chose. Moi, il y avait une bonne femme qui était venue nous raconter c'était quoi un burn-out. Elle m'avait jeté par terre. À l'époque où je travaillais chez Hydro-Québec. Elle avait dit, le burn-out, c'est pas de trop travailler. Le burn-out, c'est de s'isoler. C'est qu'à un moment donné, le travail t'isole. T'as plus de routine, de contact avec les gens. Il y a plus juste une chose dans ta vie. Tu dis plus bonjour à tes enfants le matin. Tu dis plus bonjour à le voisin qui ramasse son journal à terre pendant que tu passes. Tu vas pas chercher ton café. T'es en train de travailler. Puis à un moment donné, t'es isolé dans ton monde. Puis là, tu fais de la panique. Tu fais de l'oppression. T'arrives plus à dormir. Puis, ben, c'est ça un burn-out. Puis si eux autres, là, comment ça se fait qu'il l'a pas fait avant? Parce que ça fait 10 ans qu'il est avec le Canadien, mais avant ça, il était sur une progression pour aller vers le Canadien. Je regarde les jeunes à Tombe qui s'entraînent 4 fois par semaine, là. 4 fois par semaine à Tombe. Puis là, il s'isole. Puis après, pataf, la COVID.
Mais qui te dit qu'il était isolé? Parce que quand même, bien entouré, 3 enfants, sa femme, les joueurs, Marc Bergevin qui est proche de lui. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que la sortie de Carey Price est arrivée 1 mois après celle de Jonathan Drouin.
Ouais.
Donc, il y a une espèce de tabou, de mythe qu'on vient de casser à l'effet que oui, un athlète, des athlètes de la trempe des joueurs de la Ligue nationale de hockey, de la trempe de Carey Price, peuvent parfois plier le genou, mettre le genou à terre en disant, garde, j'ai besoin d'aide. Ça ne va plus.
Formidable.
Ça ne va plus pourquoi? Ben, c'est formidable. Certains,
oui,
Luc, parce que le message que ça envoie, c'est que on n'est pas invincible. Tu comprends?
C'est ça. Mais c'est bon pour nous à savoir aussi. J'ai vu un docteur hier, qui je ne me rappelle pas de son nom, je pense que c'est... Je me rappelle plus. Des fois, je dis que ça va de bon cœur, mais c'est pas ça. pas sûr, je me rappelle plus. Il disait, est-ce qu'on sait qu'il y a un Canadien sur six qui va avoir, qui va fréquenter soit l'aile psychiatrique ou psychiatre dans sa vie? Est-ce qu'on sait ça? Un sur six. C'est beaucoup, ça.
Ouais, mais moi, ce que je trouve.
On va prendre des pilules.
Ouais, ben, ce que je trouve aussi, c'est intéressant, c'est le message qu'on envoie aux hommes. Parce que derrière cette nouvelle, il y a encore, malheureusement, ce mythe, ce tabou, enfin, ce qui perdure. Les hommes demandent de plus en plus d'aide, mais il y a quand même, de la part des hommes, une espèce de barrière à demander de l'aide. Puis s'ils le font, ils vont le faire souvent sous le couvert de l'anonymat, en parlant d'un organisme qui est prêt à les écouter. Fait que je me disais, quelque part, il y a certainement quelque chose, comme société, qu'on peut mettre en valeur pour dire aux hommes, ah, un instant, là, c'est fait pour vous aussi, si oh, Carey oui. Price l'a demandé.
Tu sais, il y avait Saint-Pierre aussi, quand il avait donné sa démission, là, qu'on n'était pas trop sûr pourquoi il avait arrêté le GSP, le lutteur.
Georges Saint-Pierre.
Georges Saint-Pierre.
Tu sais, quand il avait donné ça, on n'était pas trop sûr, puis il ne voulait pas le dire. Puis, tu sais, si c'est vrai que lui aussi, c'est un problème de dépression ou de santé mentale ou de burn-out, mais là, tu as Georges Saint-Pierre puis Carey Price en haut de l'affiche. Là, c'est-à-dire à tous les hommes du Québec, puis du Canada, puis du monde. Les gars, t'as beau être fort, t'as beau être vraiment fort, ça se passe entre les deux oreilles.
Non, mais ça, c'est clair. C'est clair depuis... Mais je disais à notre ami Ray Lalonde tantôt, ce qui est encore plus fort, c'est l'influence que ça peut avoir. Tu sais, parce que de voir entendre des psys parler de santé mentale, OK, c'est intéressant,
ouais, c'est un psy,
mais de voir quelqu'un qui, normalement, devrait pas avoir de problème de santé mentale, tu sais, parce qu'il a une carrière, puis le monde l'aime en général, puis tout ça, puis qui craque quand même, tu te dis, ça peut m'arriver peut-être à moi aussi. Là,
ouais. Mais il y a aussi le pendant, le revers de cette nouvelle. Il y a des gens au Québec qui disent, ben là, on peut s'en revenir, puis il y en a d'autres qui disent, au salaire qui est payé, là, sa job, c'est de gagner.
Ouais, laisse faire le salaire, c'est comme les infirmières, ça.
Non, mais je traduis dans le fond ce qu'il y a des auditeurs qui pensent, mais dans le contexte actuel, ce que ça dit, c'est...
Bon, ben, tu fais 10 millions par année que t'es blindé contre les
problèmes. Voilà.
La commission Normando-Ferrandaise.
Vendredi, rapport des commissaires. Luc, tu commences.
Bon, ben là, en commençant... Un homme d'acier.
Un homme d'acier.
Il est fait en quoi, ce gars-là? Il portait le jersey du Canada sur son dos, mais en fait, j'y crois pas, il vient de la planète Mars.
Dis-moi pas que c'est Justin Trudeau, là?
Non, Guillaume Boivin. Guillaume Boivin!
Qui est Guillaume Boivin?
Guillaume Boivin! Un nom que tout le monde doit mettre dans ses alertes, email, courriel dorénavant. Le gars est arrivé 9e à Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, c'est une course de vélo. Hein, c'est un cycliste, Guillaume Boivin. Paris-Roubaix, c'est une course de vélo. C'est l'enfer du Nord, 250 km. C'est la course qui revendique le plus de bras cassés, de poignets cassés, de jambes cassées, parce qu'il y a des sections en pavé. C'est une course inventée par un Belge fou. Puis les Belges en sont fous de cette course-là. Il pleut, il y a des pavés, tu glisses, tu tombes, tu te casses la gueule. C'est un Québécois, un météorite. Il passe une crevaison. En avant, quand tu as une crevaison, ils t'attendent pas. Ah, Guillaume, mais une crevaison. Là. En avant, là, ça roule. Eux autres, c'est comme des trains électriques en avant. Là, t'appuies sur le piton, tu règles la vitesse, puis ouang, ils foncent, ils arrêtent jamais, ils ralentissent jamais. Ça, il a pris 50 km pour les re-rattraper. Après les avoir re-rattrapés, il tombe, il se casse le poignet, il rembarque son bicycle, puis arrive 9e.
Ben voyons.
Hein?
C'est incroyable.
Incroyable. Puis ces gars-là, là, ça, c'est une course, tu sais, Tom Boonen, Florent Vermeersch, puis Mathieu Van Der Poel. C'est une histoire belge. Eux autres, là, c'est comme la finale de la Coupe Stanley. Et ils envoient leurs meilleurs, des meilleurs. C'est extrêmement dur. Moi, j'en suis toujours pas revenu. Puis aussi, c'est aussi un autre gars, Hugo Hull, dans la même course. Les Québécois sont en train de prendre leur place en international. C'était jamais arrivé avant. Bon, passe à une autre affaire. Elon Musk.
Oui, je suis convaincu que tu l'adores.
Veux-tu bien nous foutre la paix, Elon Musk? Veux-tu bien aller te cacher qu'on ne te voie plus? Il a déménagé son usine de Tesla de la Californie à Austin, au Texas, parce qu'il n'était pas content. Il n'a pas arrêté de parler contre la Californie pendant les mesures sanitaires. Puis si vous arrêtez pas, je vais déménager mon usine, etc. Là, finalement, il a déménagé son usine dans un État qui vient de déclarer que les femmes n'avaient pas le droit de se faire avorter. Dans un État qui a déclaré que il y a des centaines de milliers de personnes qui allaient pas voter aux prochaines élections parce qu'ils ont réorganisé la loi électorale. Fait que toi, t'es fâché pour les mesures sanitaires, mais tu regardes pas de l'autre bord ce que tu fais comme geste. C'est quoi le geste que tu poses et qui fait appel à tes consommateurs. Moi, je serais une consommatrice. Je n'achèterais pas de sa maudite Tesla. J'espère que les femmes américaines vont arrêter d'acheter des maudites Tesla à cause d'Elon Musk. Troisième saliste. Et non, la moindre.
Vas-y.
Florence Lucas. Merci, Madame Lucas. Merci mille fois. Un jugement qu'elle a rendu à la mi-septembre dans une affaire de protection d'un milieu humide et forestier qui va tout changer, du moins dans la CMM, peut-être dans l'ensemble du Québec. Et aussi, je veux saluer Jean-François Girard, qui est un avocat, qui a dit la même chose, qui a professé cette décision-là depuis des années. J'ai rencontré Jean-François Girard il y a plusieurs années, j'étais responsable des grands parcs, puis il me disait... Luc, les municipalités sont pas obligées d'acheter les milieux naturels pour les protéger. Parce que le seul outil qu'on avait, c'est l'expropriation. Ne fais pas ça. Mais moi, j'avais comme une armée de fonctionnaires qui me disaient le contraire en arrière. Je dis, mais oui, c'est ça. Mais non, t'es pas obligé de les acheter. Parce que quand tu passes un règlement en disant, tu l'as, tu le gardes, mais tu peux pas le développer. Tu peux le développer comme... Tu peux le garder comme milieu humide, tu peux le garder comme forêt, mais tu peux rien construire dessus. Il faut que tu gardes les arbres dessus, il faut que tu gardes les milieux humides dessus, mais tu peux pas faire autre chose. Ça, selon la loi avant, c'était de l'expropriation déguisée, parce que ça disait, ben si tu peux pas faire autre chose avec, c'est donc que tu me l'expropries d'une certaine façon, je peux pas l'exploiter. Mais le jugement dit non. Il y a des gens qui sont prêts à te l'acheter, ce milieu humide-là. Il y a des groupes écologistes, il y a des municipalités qui sont prêtes à te l'acheter. Donc, il y a une valeur. Et tu vas garder cette valeur-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut protéger des milieux humides. Je le sais parce que nous autres, on a dépensé 110 millions pour acheter des milieux humides puis des terres dans l'ouest de Montréal. Ben, c'est 110 millions de projets, mais il y a eu 50 millions de subventions qui sont venues du fédéral. On n'a pas besoin de le faire. On n'a pas besoin de l'acheter. Le gars, il garde, mais il peut pas le développer. Et ça, c'est un nouveau jugement. Yes, Madame Lucas.
Mais qu'est-ce que tu veux faire avec si t'es propriétaire du terrain?
Ben, tu marches dedans, tu regardes les canards.
Mais tu le préserves.
La loi
ouais,
dit.
Mais je comprends, mais.
La loi dit, tu peux pas l'exproprier. Tu peux pas faire une expropriation déguisée. C'est-à-dire, tu peux pas dire ce que je viens de dire. Tu marches puis tu regardes les canards.
OK, mais peux-tu me l'acheter? Mettons que tu vas en faire un parc.
Je suis pas obligé de te l'acheter.
Je sais que t'es pas obligé.
Tu le mets en vente.
Mais ils sont pas protégés, les milieux humides.
Oui, mais tu peux payer une compensation pour pouvoir le développer quand même avec la nouvelle loi. Là, les forêts et les milieux humides, tu pourrais dire, je ne te l'achète pas, mais tu dois trouver une source de revenus qui ne met pas à mal le milieu humide ou la forêt.
C'est un rapport assez fascinant cette semaine, hein, je dois le dire.
Varié en tout cas, très varié.
Très varié, effectivement. Oui. De mon côté, merci, j'ai deux prix orange. Le premier va à Clémentine. Clémentine, c'est un prénom qui a résonné sur le 98.5 cette semaine. Notre collègue Bernard Drainville a reçu cette jeune femme de 19 ans qui s'en est sortie exploitée sexuellement, entre autres, par le crime organisé. Une histoire abracadabrante, c'est son père qui l'a sauvée des mains du crime organisé. Elle a accompagné la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, à cette annonce qui confirme, le gouvernement a confirmé 19 millions de dollars pour lutter contre l'exploitation sexuelle chez les mineurs. Mais l'histoire de cette jeune femme est absolument fantastique. Écoute, on pourrait faire un film avec son histoire. Et je lui lève mon chapeau parce qu'elle avait un aplomb, une assurance, et ça prouve que on peut s'en sortir. Alors, c'est un beau message qu'elle avait à livrer cette semaine. Un deuxième prix orange, sans surprise, à Carey Price pour le geste qu'il a posé. La noblesse du geste, assurément, mais également le fait qu'on vient, je pense, de briser un tabou. Oui, les hommes peuvent demander de l'aide. Et même quand tu t'appelles Carey Price, c'est possible d'admettre que oui, tu as des moments de faiblesse dans ta vie, puis tu acceptes de composer avec ces moments de faiblesse et tu veux aussi t'en sortir.
Nathalie Ordon, tu disais quelque chose d'important aussi.
Oui.
Quelque chose d'important. Tu disais quelque chose d'important, là. T'allais-tu l'oublier?
Oui, j'allais l'oublier.
Ben, c'est sur le fait que là, faudrait arrêter de...
Oui, c'est ça, absolument. C'est ça. Mais oui, ce que je voulais dire, merci, Luc, de me le rappeler. Là, faudrait peut-être, à partir de la nouvelle est, bon, ça fait 24 heures qu'on en parle, là. Faut arrêter de l'écœurer. Excusez l'expression, là. Sacrez-lui la paix, là. Ce qu'il y a besoin, c'est de sérénité, c'est de calme. Là, j'espère qu'il y en a qui vont se garder une petite gêne, là, pour poser des questions.
Deux jours. Ben, oui. Ça commence que ça va, il revient.
Quand est-ce qu'il revient?
Quand est-ce qu'il revient? Non, mais ça, on peut-tu se garder une petite gêne? Catégorie on veut y croire, c'est le succès de l'opération vaccination obligatoire par rapport au bris de service anticipé. Moi, je vous le dis, là, j'ai J'ai énormément de craintes au 16 octobre au matin. Je comprends que le gouvernement persiste et signe. Il y a une majorité de Québécois qui sont derrière le gouvernement sur la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé. Mais les bris de service, ça, c'est pas un concept ludique, là. C'est dans la réalité, là. Il risque d'avoir des gens dans le réseau, personnes âgées, des jeunes de la DPJ, les jeunes enfants, les adolescents qui vont subir les contre-coups de l'impact de ces milliers de personnes qui vont se retrouver à la maison du jour au lendemain. Alors, j'aimerais bien que le gouvernement nous dise concrètement là, comment on va arriver à minimiser l'impact sur l'offre de services, éviter effectivement qu'il y ait un bris de service sur le plan des...
Mais il pourrait demander conseil à Boris Johnson.
Hein? Ton ami.
Mon ami Boris.
Il est pas mal dans l'eau chaude, ton ami. Là.
Ben là, tu sais, puis en plus...
Rien ne va plus pour Boris.
Rien ne va plus. Il n'y a plus personne qui travaille dans les abattoirs. Il n'y a plus personne qui travaille dans les camions. Puis là, il a fait un discours au Parti conservateur enflammé à la Winston Churchill. Les gens étaient debout en train de pleurer. Il a larme à l'œil. Ah, ah, Boris. Ben oui, mais crime pas.
Et mention spéciale en terminant à la coroner Kamel pour son rapport sur Joyce Echaquan. Bon, on va pas repartir sur notre conversation, sur notre discussion entourant la première recommandation.
C'est un bon rapport.
Oui, c'est pour ça que je me dis, faut évitons de faire son procès, concentrons-nous sur l'essentiel, c'est-à-dire les recommandations de son rapport pour éviter que ce genre de situation se reproduise.
Bon week-end de l'Action de grâce. On vous retrouve mardi matin.
C'est 23.